Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'Alep. Je suis à nouveau en compagnie de Muriel et Marion. Comment allez-vous ?
Très bien. Et
ça
toi ?
Ça va plutôt bien.
Super. Toujours au taquet.
Ouais. Toujours dans les airs. La tête dans les nuages.
On parle encore d'oiseaux, c'est ça ?
Encore et toujours. Non, on va s'arrêter à un moment donné. Mais en fait, c'est un sujet super riche. Et là, on avait envie de parler avec vous de gros oiseaux. Enfin, il y en a des moyens et des très très grands, surtout ici en Lozère. On va parler des rapaces. Alors Marion, un rapace, c'est quoi ?
Alors, on va toujours partir de l'étymologie ou de la définition, mais ça vient du latin, rapax, qui signifie emporter précipitamment.
Waouh, ça fait peur.
Ouais. Alors plus simplement, un rapace, c'est un carnivore ou un charognard. On peut aussi dire un prédateur qui se reconnaît à son bec crochu et à ses grosses griffes plus ou moins affûtées que l'on appelle les cerfs. On a différents rapaces pour faire simple. On a les rapaces qui vivent la nuit, donc qu'on appelle les nocturnes, chouettes et hiboux par exemple, et les rapaces à l'opposé qui vivent le jour, donc les rapaces diurnes.
Et pourquoi juste emporter précipitamment ? C'est par rapport à la technique de chasse ou quelque chose comme ça ?
C'est ça, c'est exactement pour ça et c'est par rapport à ce qu'ils mangent et à comment ils arrivent à se fournir en fait à chasser.
D'accord.
Après, c'est vrai que le martin pêcheur emporte précipitamment un poisson. Après, c'est l'image qu'on en a eue. C'est des prédateurs, des carnivores, mais la mésange aussi, elle est carnivore parce qu'elle bouffe des chenilles. Donc voilà.
C'est ça. C'est surtout en fait le bec crochu et les grosses griffes et puis l'idée que les rapaces sont plus visibles que d'autres animaux par rapport à ce qu'ils mangent. On les voit plus facilement chasser, on les voit.
Alors, un aigle qui attrape un lièvre, ça se voit plus facilement qu'une mésange qui attrape un perce-oreille.
Oui. C'est ça. Mais du coup, la classification, elle est quand même assez complexe. On a des vautours, des aigles, des busards, des faucons. Et à chaque fois, on parle de plusieurs espèces. Donc, il y a plusieurs espèces d'aigles, plusieurs espèces de vautours. En France, on a 25 sur 40 espèces de rapaces nicheurs d'Europe. Ce qui est quand même pas mal. Mm-hmm. Hein, puisqu'on est le second pays d'Europe de l'Ouest après l'Espagne, qui a une pauvre espèce en plus. Hein.
Oui, donc on est à égalité, quoi.
Voilà. Donc chez nous, les enjeux de conservation, ils sont plutôt forts.
D'accord, donc si on parle de conservation, ça veut dire qu'on a besoin de les conserver ? Ils ont un statut particulier ?
On y reviendra après, sûrement, mais...
mais ou pas, c'est comme tu veux.
Ou pas. Mais oui, les rapaces sont, à l'heure actuelle, tous protégés par la réglementation française. Alors, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a derrière une politique de conservation, où il y a des enjeux qui sont établis, et puis des missions qui sont données. Mais en tout cas, il est interdit de les tuer, de les toucher, de récupérer des morceaux de ces espèces. Enfin, voilà, les textes de la réglementation et de la protection de la nature, quoi.
Ils sont stricts, d'accord. Voilà. Mais alors, ils sont protégés, donc ils sont... Il y a une notion de rareté derrière, mais pourtant, ils sont assez faciles à voir. On en voit souvent ici, en Lozère.
Oui, c'est vrai qu'on en voit souvent, particulièrement ici. Alors, un rapace, ça passe pas souvent inaperçu. La plupart du temps, c'est assez gros. Ça vole haut. Et puis, ça vole plutôt la journée et en pleine journée, à la différence de d'autres oiseaux qu'on va plutôt voir le matin, ou des passereaux qu'on va voir plutôt le matin ou le soir. Si on prend l'autoroute, par exemple, des buses, on les voit tous les kilomètres sur un piquet, quoi. En France, on estime qu'il y a entre 286 000 et 392 000 couples reproducteurs sur le territoire, donc métropolitain, du coup. Il faut savoir que sur ce chiffre, c'est quand même 43% des buses et 25% des cresserelles, des faucons cresserelles. Donc tous les autres sont vraiment moins importants. Même si en Lozère, on voit beaucoup de milans royal, sachez que dans le reste de la France, c'est une espèce qui est plutôt rare et qui décline, comme beaucoup d'autres, et souvent à cause de nos pratiques, quoi.
Et pourtant, les rapaces ont l'air plutôt acceptés en France, mais je crois qu'on les a même réintroduits il y a quelques temps. Enfin, là, je pense notamment aux gorges du Tarn, si je ne dis pas de bêtises.
Au vautour, ouais.
Au vautour, finalement,
oui. Tout à fait. Bah, les hommes ont souvent eu beaucoup d'inspiration en regardant les rapaces dans l'air. Par exemple, si on prend un autre oiseau qui n'est pas un rapace, la colombe, bah, elle va représenter la paix. Mais chez les rapaces, c'est plutôt des symboles de, plus de l'ordre du pouvoir et de la force. Par exemple, l'aigle, voilà, la force. Le faucon, ça va être la vitesse. La chouette, c'est la sagesse. Et les vautours, bah, la mort. Vu leur côté charognard, c'est pas très étonnant. Donc c'est des symboles qui sont quand même forts, qui ont fait des animaux qui sont vraiment puissants et souvent concurrentiels à tort, parce que même si ce sont des prédateurs, ils mangent surtout pour la plupart des cas et la plupart des espèces des rongeurs. Donc pendant longtemps, on les a chassés et il y avait des fortes primes sur leur tête. On a pu estimer qu'il y avait entre 200 et 300 000 rapaces abattus par an, ce qui veut dire la moitié de la population actuelle en France quand même.
Mais on les chasse plus aujourd'hui.
Alors non, aujourd'hui on les chasse plus. Il semblerait que les rapaces ont réussi à être adoptés par l'homme. Donc on est bien ici, en Lozère, le rôle d'écarisseur naturel du vautour.
Oui, même s'il a été peut-être un peu difficile à accepter à un certain moment.
Ah, il faut un temps pour tout. Il faut connaître, il faut savoir avoir une affection particulière envers les espèces. Et puis au bout d'un moment, les choses se font et se comprennent.
D'accord, donc maintenant c'est plutôt gagné pour les vautours.
Alors, c'est jamais tout à fait gagné. Il y aura toujours des personnes qui seront plus ou moins sympathiques à l'égard de toutes les espèces. Mais on peut imaginer que les vautours, quand même, vu la population et ce qu'ils apportent aux gens en termes touristiques et en termes de l'élevage, c'est quand même... un bel exemple du partage nature-homme, quoi.
C'est pas négligeable, ouais. Et du coup, les autres rapaces, buses, busards, cresserelles, est-ce qu'ils ont une utilité, même si ce mot est critiquable, puisque une espèce peut être présente sans être très utile, forcément, mais est-ce qu'elle a une utilité particulière par rapport à l'agriculture ?
Oui, dans les rongeurs. Donc c'est vraiment une lutte naturelle contre les rongeurs qui ravagent pas mal de champs. On voit bien, là, on a eu un pic de la population de rats taupiers dans nos champs en Lozère. Donc, les buses, les busards, le cresserel, le faucon cresserel qui mange les petits rongeurs à la naissance, vont être de super régulateurs de ces espèces, quoi. Alors, ce n'est pas parfait. On pourrait même aller plus loin en favorisant leur présence dans nos activités, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont été acceptés, en tout cas par rapport à ce qu'ils apportaient à l'homme, quoi.
Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que certains, en tout cas pour pas dire tout le monde, agriculteurs lozériens se plaignent un petit peu des rats aux pieds, etc. C'est quoi, on manque de rapaces, concrètement, pour équilibrer tout ça, ou c'est au-dessus ?
On a un petit peu déséquilibré l'ensemble. En faisant disparaître les rapaces, ils reviennent petit à petit, mais c'est quand même des populations qui sont moins importantes qu'avant. Mmh. On chasse le renard, on élimine des milliers de renards, alors que c'est aussi un régulateur non négligeable, même important, par rapport à ces animaux-là. Et ensuite, c'est des cycles naturels de pullulation chez les rongeurs, donc c'est normal qu'à un moment donné, il y en ait beaucoup. Mais si on reste dans des réflexes de... En fait, il y a des produits chimiques qui sont apparus pour empoisonner les rongeurs. Quand on utilise ces produits, c'est toute la chaîne qu'on empoisonne. Donc on fait disparaître en même temps les renards et les rapaces.
Qui vont le manger derrière, ouais.
Voilà. Alors les populations de rongeurs, en fait, ont un cycle beaucoup plus rapide. Donc ils vont refaire des naissances et repulluler beaucoup plus vite, alors que leurs prédateurs ont un cycle de croissance plus lent. Donc en fait, si des prédateurs sont empoisonnés et disparaissent, ils vont mettre beaucoup plus de temps à revenir que les rongeurs. C'est là qu'on a créé le déséquilibre. Voilà. Mais donc c'est l'intérêt avec la nature. Enfin, ce qui est chouette avec la nature, c'est que rien n'est figé et qu'elle peut toujours s'en remettre jusqu'à un certain point. Donc on peut rattraper nos bêtises.
Si l'homme n'intervient pas trop.
Si l'homme intervient intelligemment.
Voilà, en tout cas.
C'est plutôt ça, ouais.
Toujours le même problème.
Puis voilà, pour revenir aux rapaces, ce sont quand même des animaux qui sont très sensibles, notamment aux pesticides. sans même aller jusqu'au poison. Les pesticides, qui vont être ingérés dans le corps de leur proie, donc des rongeurs, vont pas tuer directement le rapace, mais vont fragiliser en fait la coquille des œufs. Et du coup, les œufs vont se casser quand l'oiseau va essayer de couver, quoi. On peut aussi, parmi nos activités qui sont un peu néfastes aux rapaces, parler des lignes haute tension qui en tuent un certain nombre. C'est même la première cause de mortalité de l'aigle de Bonelli, les lignes haute tension. Alors c'est pas fait exprès, hein. Il y a jamais une volonté derrière quand on installe une ligne haute tension et on a besoin d'électricité, on en a tous besoin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si l'oiseau se pose sur un fil, il y a pas de problème. Il va rien lui arriver. Par contre, les rapaces sont pour la plupart des animaux qui sont assez grands, et c'est en déployant leurs ailes qu'ils risquent de toucher un second fil qui là les électrocute et
qui peut poser problème. Ouais. On peut aussi penser aux éoliennes qui peuvent poser problème à certaines catégories d'oiseaux, même aussi de chauves-souris. Voilà, donc tout ça, c'est des effets indirects qui se rajoutent aux effets directs des poisons, par exemple, ou des dérangements sur les nids, etc. Est-ce que, à part la menace qui pèse sur eux, qu'est-ce qui en fait des oiseaux à part, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on les a classifiés dans les rapaces ?
Alors, les rapaces, c'est surtout des oiseaux qui ont des stratégies complètement différentes d'une espèce à l'autre. On les a classés à part de par leur génétique, mais c'est surtout on connaît tous le mot rapace et on a tous en tête l'aigle. C'est des animaux qui vont passionner un peu les gens, qui vont être impressionnants, et c'est vraiment ces stratégies différentes qui vont faire qui sont impressionnants. Si on prend les rapaces diurnes, par exemple, on les connaît par leurs yeux sur les côtés, pas comme les chouettes ou les hiboux qui, eux, ont un regard qui est vraiment de face. Les yeux chez les rapaces, c'est en quelque sorte leur force. Ils ont une vision qui est nettement supérieure à la nôtre. Un aigle, il est capable de voir un lapin à 1,5 km, quand nous, dans les meilleurs des cas, on l'aperçoit à 500 mètres. Donc c'est pour ça qu'on les voit souvent voler au-dessus de nous, et que souvent, ils nous ont vus bien longtemps avant qu'on les voie.
D'accord. Et au niveau des rapaces nocturnes, ils ont aussi les yeux très développés ?
Alors, ils ont aussi des yeux qui sont évolués, mais différemment. Ils ont de très gros yeux en forme de poire, ce qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas trop les bouger. Ils ne peuvent pas faire des rotations d'yeux comme nous, on peut le faire.
Mais ils bougent la tête.
Voilà. Par contre, ils arrivent à tourner leur tête. Si nous, on essayait de le refaire, on aurait...
Un bon torticolis.
Ouais, c'est ça.
Le coup du lapin.
C'est ça, même, carrément. Et eux, ils ont besoin de très peu de lumière. Donc on dit qu'ils sont nyctalopes. J'adore ce mot. un croissant de lune ou quelques étoiles, ça leur suffit pour qu'ils y voient aussi bien que nous en plein jour. Par contre, dans le noir complet, ils y voient pas. Mais ils y voient, et par contre aussi, à contrario, ils voient que très peu de couleurs. Ils voient que les contrastes et les formes en noir et blanc, quoi.
D'accord. Mais du coup, est-ce qu'ils sont éblouis par la lumière du jour ? Ils la supportent ou pas ? Est-ce que c'est des sortes de vampires ?
Non. Alors, c'est comme pour les chauves-souris, hein. D'ailleurs, les chauves-souris ne sont pas éblouies par la lumière du jour, n'ont pas peur de la lumière. Ils ne sont pas des vampires. Pour ça, ils peuvent très bien être éveillés en plein jour, faire leur toilette ou quoi que ce soit, et ne pas avoir de problème de vue. Par contre, il y a une espèce de chouette qui est l'effraie, qui elle, va être éblouie par surtout les phares des voitures, par la lumière qui arrive trop directement, comme quand on arrive en voiture, on éblouit. Et donc c'est pour ça que souvent on la retrouve morte sur le bord de la route, parce qu'elle a été percutée, parce que éblouie, elle est désorientée.
D'accord. Alors ils utilisent la vue pour chasser tous, ou est-ce qu'il y en a qui ont des stratégies différentes ?
Alors il y a différentes stratégies, mais la vue est quand même essentielle. L'ouïe aussi joue un rôle important, mais plus pour les chouettes et les hiboux qui ont des oreilles dissymétriques, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment pas en face. Il y en a une qui est en bas, une qui est en haut.
C'est caché, donc ça se voit pas.
Ouais, c'est caché. Ce qui fait que chaque oreille n'entend pas en même temps le son qui est émis, et ce qui permet à l'oiseau de localiser sa proie directement et assez justement. Mais il y a aussi des espèces qui se sont spécialisées dans une alimentation ou dans un milieu, et leur morphologie s'est adaptée à ça, et font des prédateurs redoutables. Ils sont en haut de la chaîne alimentaire.
On peut penser au faucon pèlerin, qui est l'as de la vitesse et qui a vraiment développé une stratégie. Voilà, c'est l'oiseau le plus rapide du monde. Il peut atteindre 300 km/h, plus ou moins selon les spécialistes. Mais ce qui fait aussi qu'il a été déifié dans plein de cultures, et que c'était l'oiseau des rois et des chèques par rapport à la fauconnerie. C'était vraiment l'oiseau qu'il fallait posséder pour montrer sa puissance et sa richesse.
C'est incroyable quand même, ça fait un bon chasseur, quoi. Il arrive à voir une petite proie à plus d'un kilomètre et il est sur elle en 2 secondes, quoi. C'est hallucinant.
Ouais, alors il a la particularité de chasser que dans le ciel, parce qu'à 300 km/h, s'il percute le sol, c'est fini. Mais oui, et on l'a su, c'est un animal qui était vraiment remarqué depuis très longtemps, parce qu'il y a un hiéroglyphe égyptien qui reprend en fait la forme des taches de la tête du faucon pèlerin. Voilà. Et alors, je ne me souviens plus exactement, mais qui veut dire renaissance, ou enfin voilà, qui est vraiment un symbole important, et c'est assez remarquable, quoi. Donc, même chez, on a retrouvé sur les hiéroglyphes
On était déjà rendu compte, ouais.
Ouais, voilà. Et puis pareil, les vautours sont des dieux qui permettent de passer d'un monde à l'autre. Par rapport au monde des morts, enfin voilà. Donc oui, les rapaces ont été depuis très très longtemps.
Les vautours, c'est l'esprit un peu charognard, non, du coup.
Oui, voilà. Mais
ils avaient quand même un côté sacré aussi, ouais. Les vautours. Ils sont sur la couronne des égyptiennes, donc il y a une représentation d'un vautour sur la couronne.
Et puis dans certaines cultures et communautés encore en Asie, la cérémonie c'est pas un enterrement du coup, mais quand quelqu'un meurt, on offre son corps au vautour. Voilà, parce qu'il va continuer à voler, du coup. Enfin, il va s'en aller dans les cieux, il va continuer à vivre en ayant nourri un animal et autre qu'un ver de terre, quoi.
C'est beau.
C'est beau. Hein. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on fasse ça?
Pourquoi
tu veux
pas
mettre tes dernières.
Ouais.
On prend note.
Je vais écrire tout ça.
Ok, ça marche. Ouais, donc ils ont vraiment plein de particularités.
C'est ça.
Les rapaces sont sûrement les oiseaux les plus facilement observables chez nous, puisqu'il suffit de lever le nez pour les voir planer. Est-ce qu'il y en a un particulièrement dont tu as envie de nous parler, ou qui fera l'objet peut-être d'une autre émission?
Alors, la dernière fois, on a parlé de nidification, de l'importance de la nidification avec... chez les oiseaux. Aujourd'hui, on parle de rapaces, donc
faisons le lien.
On va parler du busard cendré, qui est un magnifique rapace que vous allez pouvoir découvrir la semaine prochaine, et qui a des problèmes de nidification, justement, et on laissera un invité nous expliquer tout ça.
Très bien. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du busard cendré.
Exactement. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.